L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Si Mara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
Ceci empêcherait les vols, bagarres, insultes et laisserait le chauffeur libre de conduire tranquillement. Le vélo, c'est bien, mais dangereux pour le cycliste et le piéton. Pour le cycliste, à cause des voitures. Le piéton, parce que le vélo circule n'importe comment et va sur les trottoirs. En plus, il circule en contresens du piéton. Et puis, il roule moins vite que la voiture. Au lieu, le piéton est obligé, c'est d'attendre qu'il passe et le feu change. Ce qui fait que des fois, le piéton croit qu'il a le temps de passer avant le vélo. Et là, je viens de lire la préface du livre de Balzac, La femme de 30 ans. Balzac a fait une petite révolution féministe avec cet ensemble de tests mal regroupés. Pour la première fois, avant tous les autres, il a démontré qu'une femme de 30 ans pouvait encore être femme, avoir des désirs de femme et être désirée comme telle. Avant lui, la femme, arrivée à cet âge, n'était plus qu'une femme épouse. Mère, rien de plus. Elle était considérée comme une presque vieille, finie sa vie de femme pour elle et les autres. Il a eu le culot de dire qu'une femme de 30 ans avait les mêmes aspirations qu'une jeune fille, qui désirait aimer et être aimée, qu'elle recherchait l'amour des gens et de jeunes gens, et que les jeunes gens la recherchaient parce qu'il comprenait que pour être initié à la vie, entrer dans le monde, seule une femme plus âgée pouvait les mettre à l'étrier. Cette façon de voir les choses a beaucoup choqué les gens de son époque, parce qu'une femme de 30 ans devait être sérieuse, bonne mère et aimer sagement son mari. Balzac a été le premier à aller si loin. Même les féministes, comme George Sand, n'ont pas été si loin. La révolution de 1789 non plus, et elle s'est peu occupée de l'émancipation de la femme. Encore du temps de Balzac, et bien après, les mariages étaient arrangés. La femme soumise à son mari, dépendante de lui en tout. L'amour avait très peu de place dans le mariage. La plupart du temps, les amoureux étaient contrariés. Les amoureux séparés par la société et la famille, pour que l'on puisse faire un mariage sérieux et durable. Et puis, un bon amoureux devenait, avec les idées de l'époque, un mari comme les autres. En se mariant avec son amoureux, la femme perdait son amoureux. Le mari devenait une chose respectable qui a garde protection pour sa femme. Un mari trop amoureux, c'était ridicule. Ça pouvait passer au début du mariage, mais après, les choses sérieuses devaient prendre le couple. Voilà la petite révolution féministe de Balzac. Maintenant, les choses ont bien changé, peut-être trop changé. Elles ont changé à 180 degrés. Ça a cassé la famille. On vit plus d'instinct. On se laisse vite embarqué par l'amour. Pour l'individu, c'est bien, mais pour le groupe et les enfants, c'est une autre affaire. J'ai vu à la télévision, sur Arte, un documentaire sur le réalisateur de films, Roman Polanski. C'était très intéressant. Le journaliste me demandait pourquoi il faisait beaucoup de plans larges. Il a répondu. Tout d'abord, j'explique aux acteurs ce qu'ils doivent faire et dire sans la caméra. Parce que la caméra, c'est mon affaire, pas la leur. C'est à moi de me débrouiller, de montrer ou expliquer par l'image ce que je veux. Si je me servais de la caméra et que je demande à un acteur de regarder sa montre, je lui dirais « Monte plus haut ton bras pour que l'on puisse voir que tu regardes l'heure. » Alors il montra son bras près de ses yeux. C'est ridicule. On ne monte pas tant le bras pour voir l'heure à moins d'être bigleux. L'acteur doit avoir un mouvement, un geste naturel, et c'est à moi de me débrouiller pour que les gens comprennent qu'ils regardent l'heure, soit en plan large, soit sans montrer la montre, mais par un regard, etc. Lorsque deux personnes parlent, elles ne sont pas proches, plaquées l'une contre l'autre, à moins d'être amoureux ou qu'ils se battent. C'est pour ça que je les laisse à une distance normale. Voilà pourquoi je fais un plan large. Il a tout à fait raison. Et trop de metteurs en scène ne savent pas se servir du plan large. En Amérique, on le fait beaucoup. Minelli, lui, s'en sort très bien. Il se sort très bien du plan large en scope. Ça lui permettait même de présenter deux scènes différentes dans le même plan. Exemple, une femme au premier plan est chez elle. De la fenêtre ouverte, on assiste à une autre scène. La femme au premier plan fait la cuisine, etc. Et, vu de la fenêtre, l'on voit son mari avec des amis. Plan large, fixe et en scope. Pas de coupure, impeccable et pas trop long. Parce que les plans fixes ne doivent pas durer trop longtemps, cela peut ennuyer. Je ne parle pas des passages en une seule prise où la caméra se déplace. Là, il y a du mouvement et changement de décor. Ça peut durer plus longtemps. Comme moi, j'ai fait dans une de mes vidéos, déplacement en continu une demi-heure. Je me sers pour le plan large de la lentille 72 mm, mais que lorsque j'en ai besoin. Il y a quelques semaines, j'ai eu la joie de revoir un ami avec qui j'avais fait beaucoup de choses. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Cet ami, c'est Jacques Morales. Je l'ai revu à la radio jeudi pendant mon émission. Il n'a pas changé, toujours le même. Bon et brave jeune homme. Même physique. Semblant content de me revoir et me disant qu'il écoute mon émission et les enregistre. À la fin de l'émission, il aurait souhaité c'est que je l'accompagne. Mais je ne sais pourquoi, j'ai pas voulu. Après, j'ai regretté. Je lui ai acheté un DVD « La vie est belle » de Capra, un des films qu'il adore. Malheureusement, je ne sais pas s'il viendra le chercher. La prochaine fois que je le revois, je ferai tout pour qu'on se revoie. Voilà, je vais arrêter mon journal, mon lever de rideau, le laisser en suspens et peut-être demain, je verrai le résumé de mon histoire. Je suis fatigué et j'ai même un peu sommeil. Il est 9h25 et je me suis levé à 6h pour bien dormir. Je me suis levé à 6 heures, mais bien dormi. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude de lire après tous ces mois de maladie. À demain, le résumé au journal. Et puis, il faut que je me renseigne sur la réparation de mon ordinateur. L'homme est la seule espèce vivante qui a réellement la notion du temps qui passe. Que le temps, au fur et à mesure qu'on le vit, disparaît. La notion de la mort, de soi et des autres. Angoisse de la fin. Angoisse du temps qui ne peut s'arrêter et que l'on ne peut retourner en arrière. Angoisse de la perte du temps. Angoisse de l'emploi du temps. Bien sûr, les animaux ont la notion du temps. Mais ils ont une notion du temps, disons, très simpliste. Bien sûr, l'animal sent la mort, mais il ne sent pas sa propre mort. Ou s'il la sent, c'est d'instinct à la dernière minute, pas du point de vue philosophique. Bien sûr, l'animal sent la mort des autres êtres vivants, mais oublie vite cette mort, parce qu'ils n'ont pas la mémoire comme nous. Les hommes sont catalogués en trois sortes de, disons, système psychologique. C'est normal, car l'homme est complexe. Et puis, cette psychologie s'est complexée à cause de la vie en société. Ça s'est compliqué. Parce que l'homme veut, en vivant en société, est obligé de se surpasser, d'être un surhomme. Donc ça crée des problèmes psychologiques. Mais c'est une bonne chose que l'homme ne soit pas parfait et qu'il soit impossible qu'il le soit. Parce que parfait ferait des hommes tous pareils. C'est ce qui fait que les choses les êtres humains sont à part. Et sont à part la nature, les autres, espèces vivantes, et à part leurs congénères. Et pour qu'ils soient à part, il faut qu'ils aient des faiblesses, des troubles. Cela permet à l'homme, par exemple, d'aimer le bleu ou le marron, etc. Cela, ces troubles psychologiques, permettent d'avoir une personnalité, particularité, d'être une personne. Autrement, nous serions tous des robots semblables. La solution de l'énergie serait peut-être de faire des appareils qui dépensent le moins d'énergie possible. Peut-être en leur mettant des batteries qui duraient le temps de vie de l'appareil. J'ai vu à la télévision, aux informations, qu'un prêtre vivait depuis de nombreuses années avec une femme qui avait deux enfants. Ses supérieurs la prennent et il a reçu l'ordre de quitter la prêtrise. Dans le lieu, il y a une manifestation des paroissiens qui sont scandalisés pour à cause de ce renvoi, qui disent que c'est un bon prêtre. Et ces gens font manifester et vont faire des dessins à leurs enfants pour défendre le prêtre. Les dessins sont mis sur le mur de l'église. Moi, je trouve que ces gens n'ont pas l'esprit religieux ni le respect de la famille. Parce que ils font manifester leurs enfants pour une histoire de mœurs. Comment les enfants peuvent-ils comprendre ce genre de choses sérieusement? Malheureusement, cela se fait de plus en plus de faire manifester les enfants qui, la plupart du temps, ne respectent que ce que leur fait dire, sans comprendre pourquoi on leur fait dire ceci ou cela. J'ai relu du Jules Verne. Oui, ça peut paraître bizarre de lire du Jules Verne à mon âge, mais d'abord j'en avais très peu lu lorsque j'étais enfant, ou presque pas, que des extraits. Et là j'ai été surpris, je me suis dit, c'est que Jules Verne savait mieux décrire des scènes d'action que Dumas. Et Jules Verne aussi parlait bien de certains problèmes, comme de l'esclavage dans Le Capitaine de 15 ans. Et je trouve c'est que le passage où il parle de l'esclavage, qui est un long passage de plusieurs pages, mais très bien écrit, il faudrait c'est que les enseignants puissent le lire, parce que c'est extrêmement important. Et c'est très très intéressant comme c'est écrit, comme il présente l'esclavage d'une façon très humaine et très belle. Mais c'est très belle du point de vue littéraire, mais du point de vue de la vie, c'est une horreur. La Royale dit que notre énergie est fait à 15% par le nucléaire, alors qu'elle est à 75%. Elle n'y connaît rien. Elle se mélange les pattes. Voilà. Ils ont voté. Sarkozy a gagné. Il a été élu. Mais il ne pourra certainement pas faire concrétiser tout son programme qu'il a dit, parce qu'il sera embêté par les socialistes, etc. Et puis, la France n'est plus un pays souverain. Ce n'est qu'un État européen comme un autre État qui reçoit des ordres de Bruxelles. La France est morte. Oui, la France est morte, pourrie de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'intérieur par les antidémocratiques, les démocraties et l'anarchie, de l'extérieur par l'Europe. La France, après chaque élection, aimerait se jeter à la mer la moitié des Français, ceux qui n'ont pas voté comme eux. Relu le Docteur Focus de Thomas Mann. Livre qui aurait pu être bon s'il n'y avait pas eu autant de descriptions, surtout sur la musique. Il y en a trop et le personnage disparaît dans tout ça. J'ai commencé à faire le thème de mon histoire. La France, qui est dans un état déplorable, des groupes de personnes décident, puisque la République est à l'agonie, les partis qui se battent pour lui arracher le peu qu'elle a. Plus personne n'est capable de mettre de l'ordre. Alors, il décide, c'est de instituer la royauté. Mais ils veulent que le royalisme soit mais ils voient que les royalistes sont divisés et incapables de gouverner. Alors, grâce à l'ADN, on va décider, c'est de trouver le descendant de Jean Ier. Union le déterre. Maintenant, il faut trouver le descendant de cette personne. Mais comme Jean Ier a été amené en Italie, on fait des recherches en Italie. Mais malheureusement, il n'y a plus de traces. Comment trouver? Les descendants des Templiers apprennent, c'est que l'on recherche les descendants de Jean Ier. On ne peut pas, ils ne veulent pas qu'un descendant de Jean Ier soit élu, devienne roi. Les descendants des Templiers sont devenus compagnons du devoir. La preuve, ils ont sur leur outil la croix des Templiers. Là, je mélange les baskets, il faut m'en excuser. Ceux de maladie qui recherchent Jean Ier est mieux que ces compagnons ce régime idiot que j'ai fait, qui est le 10e roi de Jérusalem de 1841 à 1814 avant Jésus-Christ. Voilà, alors là j'aurai beaucoup de travail à faire. Parce que comment trouver le descendant, comment ils ont eu l'ADN du descendant, etc., etc. Et qui est ce descendant? Que fait-il? Travaille-t-il? Famille? L'on voit bien chez Balzac que la bonté peut faire plus de mal que le mal. Je suis tout à fait d'accord sur cette idée. Pardonnez-moi si j'ai des difficultés à lire. C'est-à-dire que, comme j'ai écrit ces pages lorsque j'étais malade, donc l'écriture n'est pas formidable. Et en plus de ça, comme j'ai été malade des poumons, j'ai des difficultés encore avec le souffle. Veuillez me pardonner. L'histoire que vous allez entendre a été développée avec beaucoup de peine. J'ai été malade pendant 8 mois. C'est pour cela que beaucoup de scènes n'ont pas été développées. Heureusement qu'avant d'écrire, j'avais fait un résumé de plus de 500 pages. Je ne suis pas satisfait de ce que je viens d'écrire. Les recherches pour retrouver l'ancêtre de Jean Ier et la lutte entre les deux groupes, l'un pour le roi, l'autre contre, n'a pas été développée. Il aurait fallu, c'est continuer la lutte durant toute l'histoire, mais j'étais trop faible et trop malade. Lorsque j'ai fini de l'écrire, je me suis senti vidé. Mais pas à cause de l'histoire ni des personnages, parce que je ne les ai pas sentis vivre en moi. Peut-être, en relisant, je vais les sentir. Pourtant, cette histoire est assez bien, même mieux que je le croyais. J'avais dans l'idée, c'est d'écrire 2000 pages, et puis la fatigue de la maladie. Et l'histoire elle-même n'en a pas voulu autant. Le vide que j'ai en moi, c'est le temps vidé que j'ai en ayant plus à écrire. Le vide que j'ai en moi, c'est le temps vidé que j'ai en n'ayant plus à écrire. J'ai commencé à écrire une nouvelle histoire, Cimara, le 28 mai à 8h30 et fini le 3 juillet 2007. Voilà presque 3 mois que j'ai fini l'œuvre, cette histoire. Nous sommes déjà le 28 septembre, il est 9h, le temps est pluvieux avec une bonne grosse pluie. Ce matin, j'ai voulu sortir et une fois dehors, j'ai retroussé chemin, il pleuvait trop. À midi, j'ai rendez-vous avec Georges Pignat qui m'invite au restaurant. Le soir, à 20h30, je vais à l'auditorium écouter Péléas et Mélisande de Debussy. C'est dommage que ce soit en version concert et non opéra. Entre ces deux rendez-vous, je risque d'avoir 2 longs appels de téléphone. Le téléphone me fatigue. Je ne sais quoi dire aux gens bien intentionnés qui cherchent à vous réconforter. J'aime mieux être seul, mais l'on se dit que ce n'est pas très gentil pour les autres. J'ai l'impression que les autres, ça leur fait du bien de compatir, d'aider les autres plus qu'à moi, et que c'est moi qui les aide. C'est méchant ce que je viens de dire, mais il me semble que c'est la vérité. On se sent tellement bien lorsque l'on s'occupe des autres, on se dit que l'on fait du bien, etc. Le silence peut être la meilleure aide que l'on puisse donner. Et puis, parler à la personne qui souffre de ce qui lui fait mal, c'est appuyer sur la plaie. Bien sûr, ils le font, c'est pour montrer qu'ils ne sont pas indifférents à ce qui nous arrive. Le bien peut faire plus de mal que le mal. Lorsque l'on souffre, l'on aimerait, c'est que l'ami soit présent mais silencieux. Mais le silence fait peur et gêne. Alors il faut parler. Et la personne est obligée de parler. Pourtant, la présence silencieuse est plus réconfortante que le bavardage. Et puis, l'ami ramène ce qu'il ressent, ce que ressent l'autre, à ce qu'il a vécu lui. Alors, on est presque obligé de le compatiser sur lui, d'avoir de la sympathie pour lui. Et de réconforter lui. Pendant qu'il vous réconforte, on est obligé de le réconforter. Et lorsqu'il compatit sur vous, l'on est obligé de faire une mine de circonstances et de dire ce qu'il faut dire devant cette circonstance. l'on peut être peiné sans en avoir l'air. L'on vous demande toujours que ça se voit. Oui, l'on vous demande toujours que ça se voit, votre peine. Vous comprendrez pourquoi j'ai parlé de ça dans quelques instants. Il faut d'abord que je vous explique tout ce qui m'est arrivé depuis tout ce temps. D'abord, j'ai fait le résumé de cette histoire, une partie de levée de rideau, et écrit l'histoire dans des circonstances particulières. Depuis le début de l'année, j'étais malade. Je faisais des crachats, je toussais, avec des sueurs froides, des difficultés à respirer, etc. Le médecin m'a soigné comme un rhume, puis comme une grippe. Après 3 mois, il m'a fait passer une radio et vu que j'avais une pneumonie. Pendant 10 jours, j'ai eu des antibiotiques. Puis après les antibiotiques, la chose a recommencé. Il m'a soigné pour une toux, etc. Je suis arrivé presque en juillet, K1, K1, malgré que j'étais malade. Je sortais tous les jours, 2h30 de marche de chez moi au cimetière d'Alionos et montais 450 marches d'escalier. La nuit, je me réveillais mouillé, glacé, comme si je venais de prendre une douche sans m'échouiller. Et cela 3 fois par nuit. Je changeais mon lit qui était trempé et je devais changer entièrement ce lit. Drap et couverture, et puis moi aussi m'essuyer et puis changer de vêtements. Ceci 3 fois par nuit, imaginez-vous les choses. Le 8 juillet, le soir, je suis allé manger au restaurant avec des amis dans le Beaujolais. Je me sentais bien, ça s'est bien passé. On m'a ramené chez moi et je me suis couché vers les minuit. Dans la nuit, tout d'un coup, je me suis réveillé. J'avais très mal à la poitrine, des difficultés à respirer. La douleur était très forte, je ne savais pas comment faire. Je me disais, maintenant, je ne peux même pas respirer. J'ai mal et j'ai tellement mal que ça m'empêche de respirer. Comment faire ? Avant, j'avais mal à la poitrine, mais je pouvais tout de même respirer, tandis que maintenant, je ne sais pas comment faire. Je me suis levé, pris de l'aspirine pour un peu avoir moins mal et je me suis recouché. Mais la douleur était toujours aussi tenace et je respirais avec difficulté. Je me suis demandé ce que je devais faire. Marcher un peu pour attendre que ça diminue. Mais non. Alors j'ai pris mon téléphone, en hésitant un peu, appelais les pompiers. On m'a demandé ce que j'avais. Je leur ai expliqué que je ne pouvais plus respirer. L'on m'a dit qu'ils allaient venir. J'ai eu la force d'ouvrir la porte de mon appartement. Mon téléphone est resté sur le carrelage de la cuisine. Et eu l'idée de prendre toutes mes ordonnances. Je me suis assis dans mon séjour, me tordant de douleur. La téléphone sonne. Je me traîne vers la téléphone et fais entrer les pompiers. Me rassois. 3 pompiers entrent chez moi, dont une femme. Je reste assis. On me demande ce que j'ai. Je leur dis que j'ai très mal et ne peux respirer. Et difficulté à respirer plutôt. L'on me sculpte. L'on me dit de rester calme. Il téléphone au SAMU pour m'emmener en urgence. Le SAMU arrive. On me demande ce que j'ai. L'on me met un masque pour m'aider à respirer. L'on me dit de rester calme. Je suis mis sur une chaise. Un pompier me demande les clés pour fermer l'appartement. Je lui dis où elles sont. Il ferme les lumières et l'appartement et me donne les clés. Je pars de chez moi en caleçon et t-shirt, sans chaussures, ni chaussettes, ni habits, rien. Dans l'ambulance, on me dit que on va me mener au Tonkin. Je souffre toujours autant. Je ne veux pas penser à ce qui va se passer. Arrivé au Tonkin, à 4 heures du matin, de suite, sans attendre, l'on me mène dans une pièce avec des appareils. On m'allonge sur une table de consultation et on me m'ausculte le cœur, tension, etc., prise de sang, etc., etc. On me demande ce que j'ai. Je respire pneumonie et mes douleurs. Je reste longuement pour être ausculté. Puis, en fin de matinée, l'on me mène dans une chambre à deux lits aux urgences. On m'a donné des choses contre la douleur. Je me sens un peu mieux. J'ai donné mes ordonnances. Un médecin vient et me dit qu'il va me prendre des échantillons dans les poumons. J'appréhende un peu. Dans la soirée, on me mène en brancard chez un médecin qui regarde comme avec un appareil qu'on fait pour les femmes enceintes sur un écran. On me fait mettre sur le dos, contre le mur, un jeune homme me tient. Le jeune homme me dit de ne pas avoir peur. On va me prendre des échantillons avec une seringue et ces échantillons iront au labo. Tout en regardant l'écran, le médecin me pique. Je ne sens presque rien, je suis anesthésié localement. Le jeune homme me montre le liquide que l'on sort de mes poumons qui est dans un petit bocal. Il y en aura 6 bocals. C'est un liquide jaune. Puis on me ramène dans ma chambre. On me donne pour la douleur. Je souffre un peu moins. Un médecin me dit qu'on va me mettre au 5e étage. Je ne pensais pas qu'on allait m'hospitaliser et que j'allais passer une nuit tout au plus. Je ne sais pas ce qui va se passer. L'on me mène chez mon spécialiste des poumons en ambulance. Me mène sur un brancard enroulé d'un drap blanc, nu, dessous, dans son bureau. Je suis comme un empereur romain. Le médecin paniqué, me voyant, me renvoie et ne veut pas entendre parler de moi. Il téléphone au Tonkin pour me dire qu'il faut m'hospitaliser et qu'il ne me connaît pas. Le médecin ne me connaît pas, mais lorsque je suis allé à sa consultation il y a quelque temps, il y a quelques semaines, il n'a pas hésité à me faire payer 106 euros la consultation de quelques minutes. Le lendemain après-midi, l'on vient me prendre pour me mener au 6e étage et non au 5e. J'ai appris par mon voisin de lit que le 6e, c'était très grave. Là, au 6e, on me met dans une chambre à deux lits. Chemise d'hôpital, rien d'autre. Là, on me branche pour la morphine, des antibiotiques, me nourrit avec des produits. Le tout relié à une machine avec écran comme un ordinateur. En plus, j'ai la tension et un petit appareil pour voir l'air, si l'air circule bien dans mon corps, etc. Me voilà prisonnier dans son lit, dans ce lit, sans pouvoir bouger, maintenu par des tas de cordons. Je suis bien obligé de me laisser aller. Dans la soirée, un jeune médecin vient me voir. Il décide c'est de me faire un grain. Je ne sais pas ce que c'est, je l'espère. À 23h, le médecin vient me voir avec une infirmière. Il se prépare à faire la chose. Grand tuyau, etc. On me fait pencher sur le côté. Anesthésié localement, on me fait un trou pour me mettre un cordon qui ira desservir le pus dans une boîte au pied de mon lit. La chose se passe bien, j'ai toujours mal, mais pas de douleur en plus de ce que l'on m'a fait. Lendemain matin, commence pour moi ma vie de légumes. La gêne d'être lavé, de demander pour faire ses besoins, sans sortir de son lit. Ma pudeur en prend un coup. Je ne me vois pas passer des jours comme ça. Et pourtant, il le faut bien. Je suis coincé dans le lit. J'ai toujours mal et ne peux pas bouger. Ne mange pas, ne bois pas. 3 fois par jour, 3 médecins viennent me voir. Toutes les demi-heures, jour et nuit, les infirmières viennent me voir. Je ne dors pas. Mon voisin de lit, nous parlons un peu. C'est un homme qui connaît tout, qui a tout fait. Il regarde la télévision, moi non, ça me fatigue. Ma douleur passe au second plan. Le besoin d'uriner, la peur de faire dans le lit, la honte de demander. Heureusement que je suis resté des jours sans avoir besoin de faire autre chose. La honte de se faire laver. Tout ceci n'est plus pénible pour moi que ma douleur. On m'a fait plusieurs radios et scanners. On m'a enlevé mon grain. Il était difficile d'enlever le pus de mes poumons. Ils n'ont pas tout enlevé parce qu'il était mis comme dans des petits lacs. Ils étaient comme dans des petits lacs indépendants les uns et les autres, mais sans lien les uns des autres. Il aurait fallu c'est me faire plusieurs trous. En plus, le microbe qui créait le pu s'était mis dans une boule de pu bien protégée et on avait beau l'attaquer avec des médicaments, ça ne le touchait pas. Les jours, les semaines passent, toujours prisonnier de mes cordons et toujours mal, en plus de mon mal. Je ne pouvais pas parler sans que ça me fasse mal. Je maigrissais, l'on me pesait tous les 2 jours sur une chaise. Puis on a voulu que je mange. Je n'avais pas faim et l'odeur de la nourriture me donnait des nausées. On m'a forcé à manger et on marquait tout ce que je mangeais. Dur de manger dans son lit avec des cordons. On a peur de renverser, de salir. En plus du cordon, j'avais un masque à oxygène qu'on mettait dans la journée et la nuit. Pas facile le masque. L'oxygène arrivait à son rythme et l'on est obligé, c'est de régler sa respiration au rythme du masque. Autrement, on étouffe. Avoir un masque la nuit, on ne peut pas dormir. Je détestais ça. Si je n'avais pas le masque, j'avais des tuyaux dans le nez pour respirer. Ça, je n'ai, ça me gênait pas. Toujours sous morphine, antibiotiques, etc. Les jours passent. Un jour, me sentant un peu mieux, je demandais au médecin de sortir de mon lit. Le médecin, après beaucoup d'hésitation, a accepté que je marche un peu dans le service et pas ailleurs. Alors, on venait me chercher, me débranchait, me branchait en oxygène sur une grosse bonbonne d'à peu près 1 m 50, 1 m 20 de haut. Je faisais quelques pas. J'étais content et je sentais plus libre. Je n'avais pas de force, bien maigri, marchais comme un bébé qui apprend à marcher. Puis j'ai demandé à faire ma toilette au lavabo, à aller au WC. L'on me menait au lavabo, la personne prenait toujours la bonbonne et au WC aussi. Ouf, plus libre, si l'on veut. Parce que j'étais toujours obligé, c'est de demander pour aller au WC, et des fois les infirmières, ça les gênait, préféraient que je fasse ça dans le lit. Alors j'allais au WC qu'en fin de la journée et une fois la nuit. Toujours la peur de faire dans le lit. J'étais gêné de leur demander et je le faisais que lorsque je savais qu'elle avait très peu de travail pour aller au WC. Le médecin, lorsqu'il m'a vu marcher, a voulu que je marche tous les jours. J'allais le long du service et disais bonjour à tout le monde. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Mara, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.